Est-ce que vous sentez ce phénomène de contraction du temps? Vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance, on remonte vers le passé pour l'intégrer dans un élan nouveau vers l'avenir. Si vous avez compris ça, la révélation biblique vous est ouverte. Et votre vie aussi en est transformée, parce que c'est comme ça qu'on progresse. On se retourne vers le passé pour aller toujours plus loin vers l'avenir. On ne tombe jamais vers le passé pour s'y complaire dans une sorte de nostalgie. On se retourne vers le passé pour s'élancer vers l'avenir. Et au fur et à mesure qu'on progresse, eh bien, tout le passé s'intègre dans un élan nouveau. Santé. Et alors, plus on avance, plus on remonte vers le passé. Dans le Nouveau Testament, on remontera jusqu'au commencement, un coup de généalogie, puis le prologue de Saint Jean. Et cette remontée au commencement provoquera un élan qui mènera jusque dans l'Apocalypse. Vous sentez ça? C'est ça la contraction du temps. C'est extraordinaire ce phénomène. C'est extraordinaire ce phénomène. Alors, faut-il lire l'histoire d'Abraham à Jérusalem, hein? On en vient à cette question-là. Alors, si vous interrogez des géographes, des professeurs, ils restent pantois. Ils disent, comment voulez-vous le prouver? Mais si vous suivez ces mouvements de la Bible, ben, Jérusalem, en prenant sa signification, son importance, aspire à elle ben, tout ce qu'on a parcouru dans la Bible. Et les rabbins du ciel de Jacob, c'est pas à Bethel que ça s'est passé, pensez-vous. C'est à Jérusalem, le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Ben, Dieu est dans le lieu, je ne le savais pas. C'est ça, le lieu au singulier. Et tout arrive comme ça à Jérusalem, vous voyez. Ça, c'est une expérience assez bouleversante, là. Alors, disons le sacrifice d'Abraham. Ben, qu'elle se privait de dire le sacrifice d'Abraham à Jérusalem, alors que c'est peut-être... Moi, je ne sais pas, je ne suis pas professeur. Mais ça me semble être le récit étiologique. Non pas d'un lieu parmi d'autres, comme on en a vu tellement hein, au cours de notre parcours du pays, mais le récit étiologique du lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Ou notre père dans la foi, hein, le type de celui qui vit l'aventure de la foi, eh bien, fait l'expérience que nous sommes appelés à faire. Et déjà ici-bas, il a comme un avant-goût de ce qui est au terme de l'aventure humaine. Il le voit celui qui le voit. Disons l'histoire d'Abraham, plutôt que après tous ces événements. Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, toujours la racine Ra'a, rappelez, la Hayroï, et puis la vision du buisson ardent, et puis voir Dieu au pied du Sinaï. Et ici, cette expérience de la rencontre se fait au maximum, ici à Jérusalem. Et le récit d'Abraham, là, à coup de relecture, là, on vient à exprimer ça d'une façon extraordinaire. Prends ton fils, ton unique, celui que tu chéris, et va, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Hein? L'Ech Lecha, encore une fois. Abraham se leva tôt, cela son âne, et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'holocauste et se mit en route pour l'endroit, moi je préférais le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom, Hamakom. Le troisième jour, voilà, toutes ces expressions-là ont une densité de signification. Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham, les serviteurs, demeurez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. Il dit nous reviendrons. Ils avaient pensé qu'il allait se passer quelque chose, puisqu'il dit nous reviendrons, au pluriel. Abraham prit le bois de l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Lui-même prit en main le feu et le couteau et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit mon père. Il répondit oui, mon fils. Eh bien, reprit-il, je vois le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit c'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Ils s'en allèrent tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait montré, fais voir, Abraham y éleva l'autel et y disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Et Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange de Dieu l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal, je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier. Vous savez que bélier se dit Eil en hébreu, hein, et que c'est la même racine que Elohim, hein, c'est-à-dire la force. Bon. Et j'ai entendu un commentaire tout à fait extraordinaire, un jeu improvisé de Claude Vigée, le poète célèbre, là, que vous avez certainement un jour ou l'autre lu les poésies ou les articles. Et c'est au cours d'un cercle biblique comme cela. Et il disait au fond, le seul sacrifice qui soit digne de Dieu, Isaac, ça ne suffisait pas. C'est le sacrifice que Dieu s'offre à lui-même. Et il voyait dans cette victime substitutive là, du bélier, comme un sacrifice que Dieu s'offre à lui-même.
C'est un jeu de mots entre Eil
et puis Elohim. Ça. Et vous voyez ce que par lui, avec lui, en lui, dans l'Esprit Saint, tout honneur et toute gloire. Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris par les cornes dans un buisson. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À ce lieu, Abraham donna le nom de Dieu voit. Ici, on a mis pourvoir, mais Dieu voit. En sorte qu'on dit aujourd'hui, sur la montagne, Dieu pourvoit. En hébreu, sur la montagne de Dieu, il est vu. Le pèlerin. Bar Adonai, Yerae, et le sujet de Yerae, c'est le pèlerin. C'est pas Dieu qui est vu. Sentez, la Massor, c'est toute une théologie. Alors on évite l'anthropocentrisme, l'anthropomorphisme, et pas elle et elle, elle avec un ségol, c'est Dieu, et puis elle avec un ségol, c'est une préposition, et elle avec un tséré, c'est Dieu. Il suffit d'un petit point pour changer la signification. Mais on retrouve le langage de Jérusalem, Yerae. Trois fois par an à Pâques, à la Pentecôte, à Sukkot, tout Israélite devra comparaître devant Dieu. Yirae, Yirae, Matayavove, Erae, Ne Elohim, Yelechou, Mechad, Elchal, Yirae, Betzion, comparaître devant Dieu. C'est tout Jérusalem. Et alors, je crois que j'ai déjà abordé le sujet, mais c'est tellement important que, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, le sable qui est au bord de la mer. Tu ne l'as pas épargné. Et alors, c'est pas du tout un sens spirituel plaqué, pas de voir un rapprochement entre le sacrifice du Golgotha et le sacrifice d'Abraham, et Saint Paul explicitement. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dit-il dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, lui qui n'a pas épargné son propre fils. Sous le mot grec, ici, on reconnaît le mot chassar. Chassarta, tu n'as pas épargné, comme dans le sacrifice d'Abraham. Encore une fois, vous voyez, on est tous esclaves de méthodes historico-critiques qui voient dans le temps quelque chose de dévaluant. Alors que dans la Bible, au contraire, le temps permet une prise de conscience. Et la signification par les relectures, par la méditation amoureuse du peuple, amène à comprendre la signification providentielle du vécu. Et puis cette signification atteint une telle densité qu'elle se projette à travers le temps et l'espace. Ici, vous avez fait l'expérience assez creuse de cette contraction du temps. Nous avons été en arrière, à reculons, jusqu'à Abraham. Et puis, au moment même où nous arrivons au point extrême vers l'alpha de l'histoire, nous sommes projetés vers le temps des accomplissements. Et on pourrait aller plus loin. Le Cédron est appelé aussi la vallée du roi. Et qu'est-ce qui se passe dans la vallée du roi, encore avant Abraham? La rencontre d'Abraham avec ce personnage mystérieux qui est Melchisédek, roi de Salem. Salem, c'est Jérusalem. Mais Jérusalem n'est pas mentionné explicitement dans la Torah, mais elle est partout présente. Les relectures l'ont infusé. Et déjà, dans la tradition juive, ce personnage apparaît comme mystérieux. Et dans l'Épître aux Hébreux, alors, ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, qui se porte à la rencontre d'Abraham, à qui Abraham, dont on interprète d'abord le nom comme roi de justice, et qui est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, dont les jours n'ont pas de commencement, et dont la vie n'a pas de fin, qui est assimilé au Fils de Dieu, ce Melchisédek de votre prêtre pour toujours. Et alors, Abraham, qui prend la tête des croyants, se retourne vers ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut, qui a l'air de symboliser le monde dans son harmonie primitive, comme s'il se retournait pas vers l'alpha de l'histoire avant de prendre la route avec tout le cortège de l'humanité vers l'oméga de l'histoire, la cité de Dieu au solide fondement dont Dieu est l'architecte et constructeur. C'est tout ce qu'on pourrait développer. Il faudrait le faire au rythme comme ça, de la marche, en suivant la bordure occidentale, vous voyez, le soir, dans la lumière du soir, tandis que le soleil illumine le mur occidental, et puis descend vers la ville, vers le point de jonction des trois vallées, là-bas, le Cédron, la Géhenne, et puis le Tyropéon, et puis remonter par la ville de David. Les fouilles ont été mises en valeur admirablement, il y a tout un jardin archéologique là-dedans, et puis repasser ensuite par le quartier neuf de Jérusalem, le quartier juif qui, après la guerre des six jours, a été fouillé très méthodiquement. On a interdit aux architectes de commencer leurs travaux avant que les archéologues soient passés. Et quand l'archéologue a trouvé quelque chose d'intéressant, les architectes doivent se débrouiller pour qu'on puisse accéder à ce qui est intéressant. C'est tout à fait passionnant. Maintenant, je crois que c'est pas à moi d'aborder ce sujet-là. Vous trouvez actuellement une littérature très abondante et les touristes et les pèlerins ont tout ce qu'il faut pour faire une visite de tout cela. Moi, je complète un petit peu ce qu'on ne trouve pas dans les livres de pèlerinage habituels. Et puis je voudrais tellement pas que les chrétiens fassent cette espèce de liturgie, vous voyez, sur le thème de Jérusalem comme lieu saint singulier, à une époque où ce sujet est plus brûlant que jamais, hein, et pour l'islam, et pour le judaïsme. Mais qu'est-ce que c'est pour nous? Qu'est-ce que c'est pour nous, Jérusalem? On pourrait aussi, en cette fin d'après-midi, hein, tandis que le soleil se couche à l'ouest, là, illuminant Jérusalem et puis le mont Moria, non seulement on pourrait aussi évoquer, parce qu'il est raconté dans l'évangile de Saint-Luc, chanter les complices, avec le Nunc Dimittis, qui est notre prière du soir quotidienne, le vieillard Siméon qui reçoit dans ses bras l'enfant Jésus au temps des accomplissements, et qui dit: maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu. Les yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Il y a des liturgies qui en viennent à supprimer Israël, tellement ce terme est devenu objet de polémique. On n'arrive plus à voir sa signification profonde. Je crois que c'est pas la solution. C'est pas la solution. La solution, c'est de reprendre les choses à la racine, et c'est comme ça que peut-être on pourrait sortir des impasses, hein, de la politique. Mais c'est pas du tout en supprimant, parce que, encore une fois, le mouvement de la mémoire nous invite à aller, au fur et à mesure qu'on affronte les problèmes, si on a besoin de sortir des impasses, il faut chercher la force de le faire dans un élan de retour au passé qui permet d'enfoncer tous les obstacles pour aller vers un avenir meilleur. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Maintenant, Israël, c'est un nom comme le nom de Dieu. On le découvre que dans la durée de l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mystère où la sagesse de Dieu est engagée en ce qu'elle est la plus subtile.